Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
Alors, on a cette annonce aujourd'hui que l'ONU publie un rapport sur l'eau. Cette annonce que le monde entier serait en danger d'un risque imminent de crise de l'eau. Ça vient, la publication de ce rapport, ça vient avec une conférence qui se déroule à New York, où est notre prochaine invitée, Rebecca Pétrin, directrice générale de l'organisme québécois Eau Secours. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Dumont.
Qu'est-ce qu'on entend par une crise de l'eau?
Oui, en fait, il n'y a rien de nouveau. Ça fait quand même plusieurs années qu'on l'annonce, cette crise-là. La problématique, c'est que ça fait 30 ans que notre consommation d'eau augmente de 1 % par année. Et malheureusement, les ressources, elles, s'amoindrissent. Donc, si on ne fait pas quelque chose pour renverser cette tendance-là, malheureusement, on ne pourra pas assurer un approvisionnement sécuritaire en eau pour tous.
Ouais, évidemment, dans des pays qui ont pas les moyens d'avoir les infrastructures requises.
Dans les pays exactement plus pauvres, que ces pays sont évidemment surreprésentés dans les ouais. non-accès à l'eau. Par contre, ce n'est pas qu'au Canada même, il y a encore beaucoup de citoyens qui n'ont pas un accès à l'eau. Et l'accès que nous avons aujourd'hui n'est malheureusement pas garanti là pour les décennies à venir. Nombreux sont les enjeux que même au Québec, on doit faire face.
Ah oui, vous pensez qu'on risque de manquer d'eau au Québec, au Canada?
C'est pas nécessairement dans l'ensemble du pays, parce qu'on est quand même propriétaire de 20 % de la ressource ouais. en eau douce du Canada, mais ponctuellement ou à certains endroits, oui. On l'a déjà vu au courant des dernières saisons estivales. Certaines municipalités du Québec manquent d'eau. Il y a certaines régions, en Montérégie, que les citoyens, pendant plus de 3 mois, ont manqué d'eau au dernier été. Et ça risque de se répéter de plus en plus souvent, malheureusement, avec les changements climatiques. La période de sécheresse s'allonge à chaque année.
Ouais. Il reste qu'on peut dire, ouais, il y a une inquiétude. De l'autre côté, il y a des méthodes. Exemple, il y a des pays qui sont capables de prendre de l'eau salée, de dessaler l'eau, ni plus ni moins, dans des immenses usines. Là, vous allez me dire, il faut avoir les moyens. Il faut que les pays soient assez riches pour le faire. Mais on n'est pas sur le bord qui manque d'eau sur Terre, là.
Il y a des différentes technologies qui existent pour aider à avoir de l'eau potable. Malheureusement, c'est pas juste un accès à l'eau à la maison qu'on a besoin. On a besoin d'eau pour soutenir l'agriculture. C'est 78 % de l'eau qui est utilisée sur la planète, c'est de l'agriculture. On a besoin d'eau pour les industries également qui produisent des biens de consommation. Il faut revoir la façon qu'on utilise l'eau aujourd'hui pour s'assurer que, et de un, l'ensemble des humains de la planète ait accès à l'eau, parce que l'eau, c'est la vie, là. On estime 3 jours le délai maximum là, qu'on peut avoir en absence d'eau ouais. pour être tenu en vie. Donc, c'est important de prioriser ça. Puis également pour l'ensemble des activités qu'on doit avoir avec de l'eau.
Ouais. Je sais qu'un organisme comme Eau Secours, initialement, avait dans ses politiques d'être contre l'exportation d'eau, etc. Mais compte tenu de l'urgence que vous décrivez, est-ce qu'un pays comme le Canada n'aura pas un devoir moral un jour devant l'humanité de vendre son eau, de rendre disponible des ressources d'eau? Évidemment, il y a le transport, c'est pas simple dans le cas de l'eau, mais de partager son eau avec des pays qui auraient de véritables enjeux?
Nous avons un devoir moral, vous avez raison, nous avons un devoir moral de conserver un maximum cette ressource en eau qui va être indispensable pour l'humanité. Par contre, je vais dans le même sens que les recommandations des Nations Unies, c'est de ne pas déplacer l'eau. L'eau est importante dans l'écosystème où elle est importante pour les humains, mais elle est également importante pour la faune et la flore qui en dépendent. Et le malheur de déplacer de l'eau d'un endroit à un autre, c'est également de soutenir artificiellement des activités qui dépendent de l'eau, mais qui sont pas pérennes. Donc, si les ressources en eau ont été épuisées à certains endroits dû à une activité agricole industrielle ou à un surdéveloppement, de prendre l'eau du Canada pour l'acheminer, exemple, en Californie, ça va juste faire épuiser encore plus d'autres ressources en eau. C'est carrément de revoir notre façon de faire, soit en agriculture ou en industrie, pour diminuer notre pression qu'on met sur les quantités d'eau utilisées.
Ouais, mais là, en agriculture, c'est pas simple. Qu'est-ce que ça, parce que là, vous allez être dans un congrès ou une convention, là. Qu'est-ce que le genre de sujet que vous abordez, le genre d'enjeu que vous abordez? Là, je parle du côté des solutions, là. Les constats alarmistes, on les saisit bien, mais du côté des solutions, c'est quoi le genre de choses que vous explorez?
La conférence qui a lieu aujourd'hui, dans les 2 prochains jours, c'est une grande nouveauté. Donc, depuis 1977, il n'y a jamais eu une conférence aux Nations Unies qui portait sur l'eau. Ce qui est mis de l'avant-plan, c'est vraiment l'approvisionnement en eau pour les citoyens et l'assainissement également. Donc, comment mettre à disposition l'assainissement des eaux usées là, pour l'ensemble de la population. On essaie, le rapport des Nations Unies qui est sorti aujourd'hui met l'emphase sur le partenariat puis la collaboration. Donc, comment les gouvernements peuvent travailler de concert avec les populations locales, avec les entreprises privées, avec la technologie, tous ensemble pour préserver un maximum cette ressource-là. Il y a beaucoup de coopération internationale qui est demandée. Donc, comment les pays comme le Canada, comme les États-Unis peuvent investir dans des nouvelles infrastructures pour les populations qui sont les plus vulnérables sur la planète. Donc, creuser des puits, mettre en place des infrastructures de traitement d'eau, d'assainissement des eaux usées. Donc, c'est vraiment la collaboration entre les différents acteurs qui est mise en avant-plan là pour ces trois prochains jours.
Parler d'assainissement des eaux usées, c'est assez inégal sur la planète, là.
C'est très inégal. Il y a 46% encore de la population qui n'ont pas accès à un endroit sécuritaire pour aller aux toilettes. C'est une grosse problématique. Ça l'engendre encore plus de la contamination d'eau. Donc, ça l'accentue le problème d'accès à l'eau. Et puis, beaucoup encore d'enfants ne peuvent pas aller dans les écoles parce qu'ils n'ont pas accès à des toilettes. Donc, c'est une grosse problématique qui ne demande pas nécessairement des fonds énormes pour régler ça. Donc, c'est pour ça qu'on met l'emphase sur la coopération internationale. Donc, comment que des pays comme le Canada peuvent venir en aide à des pays qui manquent de ressources pour fournir ces infrastructures-là à leur population.
Donc, ça, c'est le genre d'enjeu qu'on va aborder. Je sais pas comment dire, mais l'eau, rapport, si les prochaines missions sur Mars en apportent, là, je veux dire, l'eau sur Terre, c'est un cycle. Il y a la même quantité d'eau maintenant qu'il y avait il y a 1000 ans, où essentiellement, oui. Là, elle s'évapore, elle revient, etc. Mais je comprends qu'à un point précis de la planète, où il y a des habitants puis de l'agriculture, à un moment précis, si on est dans une zone de sécheresse, il peut y avoir des inondations à l'autre bout de la Terre, mais c'est ça le problème des changements climatiques, là. Mais, je veux dire, on n'est pas... Parce que des fois, il se dit tellement de choses sur l'eau. Pour une personne rationnelle, ça fait mal. Tu sais, tu laisses couler ton eau parce que tu te brosses les dents. On va te dire, ah ben là, tu gaspilles l'eau. Ils en ont pas en Afrique, quoi. Mais là, si tu me promets que tu vas aller leur porter, je vais fermer le robinet. Mais il y a un point où, tu sais, nous, on la prend dans le fleuve, on la remet dans le fleuve, là.
C'est vrai. De diminuer la consommation d'eau ici permettra pas d'avoir plus d'eau pour quelqu'un qui en manque à l'autre bout de la planète. Par contre, la consommation, que nous faisons chez nous a un gros impact sur l'approvisionnement en eau. Quand on consomme des fruits et des légumes qui viennent du Mexique, du Chili ou de la Californie, ces fruits et légumes-là ont utilisé de l'eau sur place et c'est une des plus grosses conséquences.
Ouais. Le pire, je pense, c'est la laitue, là, non? Ça, c'est une des affaires les plus bizarres sur Terre. On produit l'essentiel des laitues romaines, etc., dans des zones quasi désertiques, à la frontière entre la Californie et l'Arizona, mais il y a des mystères de même sur Terre, alors on devrait faire ça quelque part dans le swamp, là.
Non, mais on pourrait vraiment accentuer les produits du Québec pour la consommation du Québec. Et puis, il faut... Mais c'est pas seulement les aliments, c'est en fait tous les vêtements, les produits électroniques, tout ce qu'on achète. Il faut prendre conscience qu'il y a une empreinte de l'eau derrière ça. Donc, tout ce qui est produit nécessite de l'eau. Donc, réduire sa consommation, c'est déjà un premier pas aussi. Et puis, de faire attention, réparer les produits et ne pas surconsommer. Donc, c'est sûr que la surconsommation met de la pression sur l'ensemble des ressources, dont celle de l'eau également.
Bien, on vous souhaite un bon séjour à New York. Merci d'avoir été là.
Merci
beaucoup. Vous ne buvez pas d'eau en bouteille dans la conférence, là?
Absolument pas.
Au revoir. Bye-bye.
Au revoir.